Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yes.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les influenceurs. On s'est entretenu avec Alexandra Guérin, une OG du game. Si elle collabore aujourd'hui avec les plus grandes marques de mode, c'est qu'elle a su faire grandir sa communauté à mesure que les réseaux sociaux se sont développés et construire une véritable stratégie de branding autour de sa personnalité et de ses looks. On en a profité pour discuter de la manière dont elle gère la critique, de son rôle de maman et de ses projets d'avenir. Hello Alex!
Salut!
Ça va?
Très bien, très bien, très bien.
Merci de passer un petit peu de temps avec nous.
Bah, merci à vous de m'accueillir.
On reçoit que des boss bitch en ce moment.
Ouais, écoute,
je suis ravie de l'entendre.
Vas-y Nico, je te laisse poser ta question d'introduction.
Ah,
tu fais si bien.
J'ai l'honneur. Non, bah écoute, dans ce podcast, on aime bien laisser la parole aux gens qui viennent. Du coup, on aimerait bien que tu nous décrives ton parcours. Tu le démarres comme où tu veux. En règle générale, les gens ils partent de leur parcours scolaire.
Mm-hmm. Okay.
Donc voilà, tu peux nous dire d'où tu viens et on déroule tranquille.
Ok. Déjà, je m'appelle Alexandra. j'ai 30 ans. J'ai toujours envie de dire que j'ai 29 ans, mais j'ai 30 ans.
Et
depuis cette année. J'ai grandi à La Défense. À Paris.
Ok.
Donc voilà, j'ai pas bougé. Au lycée, j'ai rien fait de particulièrement intéressant, un bac général. Et ensuite, je suis allée en stylisme. Donc j'ai fait 2 ans de styliste modéliste dans une école qui, je crois, n'existe plus, mais qui s'appelle. Peut-être existe, pardon. Je sais pas si elle existe. Désolée, I'm sorry. Elle s'appelle Modesta. Okay. J'ai fait ça parce que moi, je voulais faire marketing, communication de la mode, mais il me fallait bac plus 2 en quelque chose.
Mm-hmm. J'ai toujours détesté ce concept.
Ouais.
Moi, à la base, je voulais être ingénieur du son. Et quand je suis allé voir la conseillère d'orientation, elle m'a dit « Ok, il faut faire bac plus 2 de n'importe quoi pour aller
ouais,
après. »
mais...
Ah ouais,
ouais.
Genre,
jamais
tu fais bac plus 2 physique, chimie, tu peux aller faire de la mode après.
Mais genre, il faut être bac plus 2 pour pouvoir être...
Non, là, il fallait quand même genre un BTS en quelque chose. Enfin, il fallait quelque chose qui ressemble commerce ou
ouais,
marketing.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais bon, moi, j'avais fait L. Donc, autant te dire que commerce, marketing,
voilà.
Du coup, je suis allée en stylisme parce que j'aimais bien ça. Et puis, je voulais connaître le vêtement, tout ça. Je savais
t'étais
que
déjà fait rue de mode, du coup.
Ouais. Ah, moi, je voulais faire. Je voulais travailler dans la mode. En fait, je voulais être styliste photo. Je voulais être styliste. Mais pas styliste, pas dessiner, pas créer des collections,
photo.
Mais styliste photo. Simplement, au lycée, styliste photo, c'est pas un métier. Enfin, c'est-à-dire que tu peux regarder toutes les annonces du monde, il n'y a pas un job qui s'appelle styliste photo. C'est pas ça. Quand tu ne connais pas le milieu, tu sais même pas où regarder.
Comment tu sais ce qu'est une styliste photo au lycée, quoi?
Moi je savais parce que j'aimais bien regarder des magazines, j'achetais des Vogue, machin, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas des jobs, quoi. En fait, t'as l'impression que c'est des filles qui font ça en faisant plein d'autres trucs. T'as pas l'impression que c'est juste leur job. Enfin, c'était compliqué. Du coup, je suis allée en stylisme, connaissance du vêtement, tout ça, c'était cool. J'ai fait 2 ans. Et ensuite, je suis allée à Mode Art, 2 ans encore, pour faire mon master en marketing et communication de la mode et du luxe. Et je sais pas comment, tu sais, le titre, il est énorme.
J'ai donné des cours, là, il y a un mois à cette classe-là.
Ok, trop bien.
Et franchement, c'était génial.
C'est cool.
Il y avait 2-3 élèves qui étaient très, très vifs. Hein.
Non, mais Mode Art, c'est une bonne école. Alors, elle a beaucoup évolué ces dernières années, j'ai l'impression qu'ils se sont grave agrandis. Ils ont changé d'endroit et tout ça, donc je sais pas trop. D'ailleurs là j'ai reçu un mail pour un livre qu'ils font sur les anciens élèves qui ont des parcours machin, donc c'était drôle. Et voilà, j'ai fait ça. Et en fait, en dernière année, je voulais toujours être styliste photo, mais ça s'orientait plus vers pigiste, enfin journaliste mode,
plus de l'écriture,
web, enfin c'était un peu tout ça mélangé. Et en fait, fallait faire un stage. Bon, j'ai fait plusieurs stages, mais le stage de fin d'année, fallait qu'il dure de fin d'études toute l'année, plus des trucs à l'école et tout. Et en fait, quand je faisais mes entretiens de stage, ils me disaient, mais est-ce que t'as un portfolio, est-ce que t'as un truc où t'écris? Et j'étais là-bas, en fait, non, c'est, enfin, un portfolio, j'ai rien fait de ma vie, tu vois, genre j'arrive, je débarque. Et mon directeur d'école, qui était archi sympa, qui n'est plus là, je pense, il m'aimait bien. Et tu sais, il me voyait faire des photos et tout. Il me disait, mais vas-y, fais un blog, c'est la mode. Ça marche bien, comme ça au moins tu pourras écrire, puis tu peux faire des shootings, tu peux poster tes shootings et tout. Je me suis dit, allez, c'est drôle, je vais faire un blog. Et c'était mon CV en fait, c'était ma porte d'entrée dans mes stages. Je disais, ok, j'ai un blog, donc comme ça elles peuvent voir comment je rédige, puisque c'était quand même journaliste web mode, c'est pas non plus parfois de l'écriture, surtout quand tu fais du stage, c'est des petites phrases, c'est pas incroyable, mais voilà, fallait quand même que je montre comment je rédigeais. Et je faisais des shootings, mais je faisais des shootings sur moi, quoi. Mais du coup, ils n'avaient pas ma tête, ou tu vois, genre, c'était vraiment spécifique pour montrer le stylisme, tout ça. Et voilà, le blog, en gros, l'influence, enfin, le monde de ce que je fais aujourd'hui a commencé comme ça. Du coup, j'ai fait mon stage chez Bee, le magazine Bee, chez Lagardère, à l'époque. Et puis, Instagram est arrivé, enfin, c'était la mode. Donc je me suis inscrite sur Instagram avec le même nom que mon blog. Pareil, je postais des photos, on voyait pas ma tête. Enfin, je coupais, c'était juste des looks. Oui, parce que quand même, de pas...
T'avais pas ce truc de bah là, je veux on me en montrer, est... je veux...
C'est pas que je voulais pas me montrer, mais c'est qu'il faut avoir confiance en soi quand même pour... Et puis après, alors ça, on va vers ça après, mais c'est vrai que là, c'est pas une question d'avoir genre là, j'ai pas 100% confiance en moi aujourd'hui, mais c'est juste qu'après, tu prends des habitudes. Ouais. Tu vois, une fois que t'as commencé à faire quelque chose et que tu te rends compte que t'y arrives, tu lâches un peu. Donc au début, il n'y avait pas ma tête. Et voilà, en fait, je sais pas, Instagram avant, c'était plus facile, entre guillemets. Tu prenais plus vite des abonnés, je sais pas. Au bout d'un moment, j'étais riposte par Asos, qui avait 1 million d'abonnés. J'ai pris 5 000 abonnés dans la foulée. Enfin, tu vois, ça allait beaucoup plus vite, en fait.
T'avais quoi, un partenariat avec eux?
Non, même pas.
Ah, même pas.
Non, c'est juste que tu sais, tu les tags, ils te ripostent. Tu vois, avant, c'était plus organique. Tu vois, il y avait moins de business derrière Instagram, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je suis partie au Canada, à Montréal, faire mon dernier stage. J'ai switché, je suis allée au L, parce que c'était Lagardère et tout. Donc j'ai réussi à aller là-bas, parce que moi, je voulais vivre à Montréal à la base.
J'étais
je sais pas, j'aime trop. Parce que j'étais partie.
Je te jure. Ah, mais c'est cool, Montréal.
Ouais, j'adore. Bah, en fait, j'étais partie avant. Cool. J'étais partie avant, genre 3 mois, l'année d'avant, dans un magazine qui s'appelait Nightlife. C'était un magazine de la Nightlife de Montréal. Mais c'était grave cool. Il y avait un peu de mode et tout aussi dedans. Et en fait, j'avais kiffé et je voulais vivre là-bas. Parce que je sais pas, Montréal, c'est un peu le mix quand même entre l'Europe, donc t'as quand même un peu des restes de l'Europe, ils parlent français, voilà, mais t'es aux États-Unis en fait. Enfin, pas aux États-Unis, mais t'es au Canada, enfin,
Les rues,
droite, machin, tu vois, t'as quand même... Donc, je sais pas, j'aime bien ce mélange,
La ville j'aime bien les gens sont chaleureux de ouf en plus.
Du coup, je voulais retourner là-bas, donc là après j'ai fait mon 6 mois là-bas, un peu entremêlé, mais au L. Et ensuite, j'ai dû rentrer, parce que il faut refaire ton visa, tout ça, donc je suis rentrée. Et j'ai eu mon diplôme. Et quand je suis rentrée, Instagram, ça marchait quand même bien. Donc, je continuais de chercher des jobs, genre sur Fashion Job et tout, tu sais, quand tu postules. Mais c'était tout le temps que des stages. Donc, je gagnais pas.
Ah ouais, il n'y a que des stages. Que toute des cette stages. Page, c'est que des stages.
En fait, que des stages ou de la pige. Mais la pige, quand t'en fais une, en fait, tu gagnes pas ta vie, quoi. Enfin, tu galères. Donc, je faisais un peu des deux. J'ai fait aussi un peu de community management, dans 2-3 trucs. Mais bon, community management, il y a 8 ans, enfin...
Ouais, c'était parce que ça, genre, dur.
Bah, les gens, ils avaient des idées bien arrêtées. Genre, je veux ça, mais ils connaissaient rien à Internet. Tu vois, tu sais, les patrons qui débarquent, voilà.
Ouais, c'était... les réseaux sociaux, ils avaient l'impression de connaître, mais ils captaient rien du tout.
Voilà, donc c'était très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu sais, avec quand t'as un blog et que t'as Instagram et tout ça, tu peux faire de l'affiliation aussi, genre mettre des liens, machin. Et en fait, je gagnais assez d'argent pour rembourser mon loyer avec ça que me galérer à avoir des gens qui me parlent mal, des patrons qui, voilà, des horaires, des machins. Donc ça a commencé comme ça en fait. Je me suis dit ok, parce que j'avais un petit loyer genre à 200 €, j'étais dans un logement étudiant là où j'habite, là où j'ai grandi. Donc je remboursais, j'arrivais largement à vivre en fait. Alors c'était vite fait, je gagnais genre 500 € par mois, tu vois. Ouais. Mais comme mon loyer était à 200 €, il me restait 300. Voilà, je gérais. J'étais sur la ligne 1. Enfin, voilà, tu vois, c'était pratique.
Mais du coup, l'Instagram et le blog marchaient en parallèle.
Ensemble, en fait. Okay. Parce qu'Instagram, c'était pas du tout un business. On on se rémunérait pas avec Instagram. C'était que le blog, c'était les articles sur le blog, les liens
que
sur le blog.
L'affiliation, quoi. Mmh.
L'affiliation, ou après, ça a commencé à faire des petits partenariats, mais sur le blog. C'était blog exclusivement. On faisait des articles, on faisait des shootings photos, on écrivait. Les gens, ils allaient lire les blogs, en fait. Instagram, c'était pas comme maintenant. Et pas toutes ces, en plus, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités sur Instagram. T'avais que juste, tu postes une photo
et stop.
Il n'y avait même pas les liens,
les tags,
tu vois. Tu faisais pas tout ça. Donc, du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et après, en fait, tu pars dedans et tu gagnes ta vie. Et après, au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, tu te dis, putain, en fait, c'est mon job. Ah, ok. Genre, bon, bah. Mais j'ai continué de chercher du travail pendant longtemps.
Ah, ok, tu continues.
Pendant longtemps, j'ai postulé à des trucs. Bah oui, parce que c'était quand même pas un vrai métier encore, même blogueur, tu vois, c'était un peu, il y avait que Garance Doré, quoi, qui était blogueuse et qui gagnait l'argent, tu vois, c'était ou Betty, tu vois, à l'époque.
Ouais.
C'était les deux. Donc voilà. Mais après voilà, c'est parti comme ça.
Et c'est quoi le truc qui a fait, est-ce que t'as senti un tournant ou à un moment tu te dis, ok, là c'est vraiment en train de s'accélérer, j'ai de plus en plus de demandes sur le blog, tout ça.
Je me rappelle pas du déclencheur, c'était vraiment petit
vraiment
à petit.
Vraiment organiquement, quoi.
Ouais, vraiment petit à petit, ça s'est fait de manière croissante. Enfin, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, allez, je fais que ça, ça y est, c'est mon job. C'est vraiment venu au fur et à mesure, surtout qu'au départ, on n'avait pas de terme pour notre job, c'est-à-dire que même pour nous déclarer, même pour faire l'auto-entrepreneur, tout ça, on n'avait pas d'appellation, en fait. Enfin, on n'existait pas, en fait, au sein de la vie active. Donc, tu étais obligé d'inventer, tu mettais, je sais pas, journaliste web, je sais pas.
Tu bricoles, quoi.
Oui, on n'avait pas. Maintenant, ça existe, influenceur, tout ça, mais c'était pas des termes avant. Donc, on mettait, ou community manager, ça existait. Donc, on mettait ça, par exemple, tu vois.
Parce que toi, t'as commencé quand? Enfin, ce blog, c'est quelle année?
Bah, je m'en rappelle pas de l'année, mais si je réfléchis, il y a 8 ans, je pense.
Ouais, 8 ans.
8-9 ans, j'ai quel âge?
30.
Ouais, vers 23 ans. Vers 23 ans, j'ai été diplômée vers 22-23 ans, ouais. Donc ouais, 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Ouais. Mais pas que c'est mon job. Je pense mon job 5 ans. 5-6 ans. 2 ans après, quoi. 2 ans après que j'ai commencé. Et en fait, j'ai vraiment commencé au Canada parce que quand j'étais à Montréal, j'avais beaucoup plus de temps. J'avais pas mes potes et tout, tu sais, donc je faisais plein de trucs là-bas. Et au final, au départ, j'étais référencée québécoise, en fait. Enfin, en fait, j'avais un énorme lectorat à Montréal, que j'ai toujours d'ailleurs, beaucoup plus petit. Mais j'ai plein de filles qui me suivent, qui habitent à Montréal. Du coup, j'ai plein de copines qui sont aussi blogueuses, influenceuses maintenant à Montréal. Mmh. Et du coup, souvent, on me demandait au début, mais t'es française ou t'es québécoise? Tu vois, parce que pour le coup, comme j'avais commencé là-bas, c'était drôle parce que j'avais ce truc avec... Avec l'Amérique du Nord.
Ok.
Et pour la création de contenu, du coup, parce que comment tu faisais, comment t'as commencé à t'organiser? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui t'es gifté, t'as des relations avec les marques, tout ça, mais je veux dire, au début, pour que le blog prenne, il faut que t'aies des outfits, il faut des trucs. Comment tu te démerdais à l'époque?
Bah, tes habits. Enfin, je prenais mes habits. C'était tout le temps mes fringues, en fait. Mais après, quand t'aimes la mode, bon, t'achètes toujours plein de trucs. Voilà, je prends les habits de tes potes. Mais ouais, c'était mes affaires. Non, c'était vraiment mes habits. J'ai toujours eu un style où je prends les trucs de mon mec, ce genre de trucs. Donc je prenais souvent les affaires de mon copain aussi à l'époque. Donc voilà, quoi. C'était mes trucs.
Ouais.
J'ai jamais fait, par contre, le truc, tu vois, ça, il y a plein d'influenceuses qui le faisaient à un moment donné. Il y a longtemps, hein, quand on commençait d'aller acheter de rendre, c'est comme styliste, en fait, comme quand tu fais du stylisme, parfois tu vas acheter, tu rends après. Ça, j'ai jamais fait, mais parce que j'ai pas pensé, en fait, je pense. C'est sur le moment, j'y vais pas
t'as
penser
fait avec ce que t'avais, quoi.
Oui, voilà.
Mais t'as peut-être une approche du vêtement qui est pas une approche marque aussi,
ouais,
mais qui est plus une approche de silhouette,
de kiff, en fait.
Ouais.
Enfin, en fait, vraiment, moi je kiffe faire des outfits, quoi. Ouais. Genre, c'est mon truc, j'aime trop assembler des vêtements ensemble, et c'est ça que j'expliquais quand j'étais plus jeune à mes parents, c'est que je disais, je sais pas. Et je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de créer des nouveaux vêtements, c'est-à-dire des trucs qui n'ont pas existé. Donc voilà, pour être designer, je trouve, pour créer une marque, il faut beaucoup de courage aussi, parce que je trouve que c'est très très difficile, c'est un milieu qui est très dur. Mais par contre, moi, je sais les mettre ensemble. Je sais pas les inventer.
Bah, une vraie styliste photo, en fait, c'est vraiment... Voilà. T'as transformé ça en...
Faire des trucs, ouais. Mais après, ça devient un peu piège, parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, parfois, je me demande si je voudrais pas refaire ça. Enfin, finalement, faire vraiment ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire styliste photo. Mmh. Mais aujourd'hui, je sais pas si je sais faire autre chose que mes looks. Tu vois, genre, j'ai du mal à... Tu sais, parfois, j'ai des copines, genre, j'ai deux, trois copines qui sont comédiennes ou ce genre de truc, qui me disent « Ah, oh, tu veux pas m'habiller ?» Je leur dis « J'ai peur que si je t'habille, je vais te transformer en moi, en fait. » Enfin,
bah après, il faudrait que je m'entraîne, quoi. Enfin, tu sais, tu prends une Suzanne Coller, par exemple, elle a son outfit et c'est très... Ça ressemble à...
Ouais,
tu
mais c'est parce que ça y est, elle a son nom. Non,
ouais, bien sûr. Ouais,
pour commencer, ouais, voilà, pour commencer, il faut... Je pense que...
Je suis pas sûr que tu vois, justement, avoir son style en tant que styliste, tu vois. Ici, nous, on est avec Imrou, il a un stylisme très...
qui lui ressemble.
Et, et les gens aiment ça. Moi, je pense pas qu'un styliste doit spécialement être genre hyper versatile ou ok, peut-être si avec les clients, tout ça, ou faut s'adapter. Et au pire, tu demandes à pas être crédité, tu vois.
Je pense que
si quand tu fais de l'image, c'est bien d'avoir un point de vue où tu vois des palettes de couleurs ou des tissus, enfin, tu vois, qui fassent que justement, bah, tu ressembles à un autre styliste.
Je suis complètement d'accord, mais du coup.
Mais il faut prendre le risque, quoi.
Voilà, déjà, il faut prendre le risque. Et du coup. Quand tu fais des jobs, en fait, ça dépend. Là, moi, aujourd'hui, je ne gagnerais pas ma vie avec le stylisme. Donc, je pourrais, par exemple, faire ce qu'on dit, c'est-à-dire garder que de l'image et faire que des trucs qui me ressemblent. Et même si je ne suis pas payée, même si machin, ce n'est pas grave. Mais quand tu commences comme ça, tu es bien obligé de gagner ta vie. Donc, tu es obligé de faire des jobs parfois que tu n'as pas envie, ce n'est pas du tout ton style.
Non, bien sûr.
Tu te forces,
tu vois. Bah, même moi, je l'ai fait. On a tous fait. Moi, je n'ai pas forcément fait des jobs qui ne me correspondaient pas dans l'influence parce que je trouve que c'est très difficile à faire parce que je trouve que du coup, en fait, tout de suite, tu casses tout ce dont pourquoi les gens te suivent. Parce que du coup, tu deviens un panneau publicitaire si tu fais tout et n'importe quoi, tu vois. Et du coup, les gens, s'ils veulent voir des pubs, ils regardent la télé, tu vois, ou ils ouvrent des magazines. Mais les gens, quand ils te suivent pour toi, ils te suivent pour ton style. Donc moi, j'ai jamais fait des trucs contre ce que moi j'aime, mais par contre, j'ai fait plein de trucs gratuits, par exemple. Genre, j'ai fait énormément. Quand tu commences, tu fais plein de trucs gratuits.
Ah, bien sûr.
Jamais tu dis non, je vais te payer quand t'as des marques de ouf qui t'appellent et qui te proposent. Donc, ouais, du coup, le stylisme, j'aimerais bien en faire, mais ouais, tu sais, une fois que tu t'es calé dans un truc, tu dis est-ce que je pourrais ? Est-ce que les gens, je sais pas, est-ce que ça. Je sais pas. Est-ce que ça fait peur un peu.
Ouais, je comprends.
Mais un jour, je pense que je le ferais. Parce que je vais pas faire de l'influence toute ma vie, donc voilà.
Ouais, ben on en parlera ça dès l'après. Mais tu commences avec quoi ? Tu commences avec 100% mode, du coup ? Tu fais un peu de lifestyle ?
Que mode. Que mode ? Parce que je savais pas faire autrement, en fait. Et puis parce que je pensais pas que le reste intéresserait qui que ce soit. Après, tu te rends vite compte que les gens, ils aiment bien ta vie perso. Qu'ils aiment bien savoir. Bah, parce que c'est assez logique, parce qu'ils s'attachent à toi, en fait. Enfin... Ils te suivent pour toi, donc bien sûr c'est cool de savoir comment tu t'habilles, mais du coup ils se disent bah je sais pas.
C'est quoi sa vraie vie quoi.
Ouais voilà, enfin c'est un peu logique, c'est comme quand t'adores une célébrité, tu dis
elle même mange si... quoi.
Ouais,
elle boit quoi.
Même si t'es pas en mode fan, mais tu te dis il est en couple ou elle est en couple, j'espère qu'ils sont bien, ils sont séparés, ah merde c'est t'es deg alors que tu la connais pas, tu vois. C'est mais parce que tu l'aimes bien, tu vois, ouais, parce que c'est qu'elle est. Ouais, parce que c'est une star que t'aimes bien et tu dis, tu vois, je sais pas, c'est dommage. Je sais pas, j'en sais rien. Ouais.
Je pense qu'il y a un peu de ça, mais ça mixe avec un peu de voyeurisme.
Et après, t'as le voyeurisme, t'as deux parties en fait. T'as les gens qui sont juste, tu vois, qui sont genre, juste attachés à toi, mais de manière saine.
Ouais,
ça, c'est
je pense
genre
que s'ils savent pas, c'est pas
un
grave.
Petit pourcentage.
Tu vois, ils
non,
passent à autre
mais
chose.
Ils font genre, ils savent, c'est pas grave, mais en vrai, ils aiment bien savoir. Tu vois, genre, t'as toujours une petite partie, tu vois, de toi qui a envie de savoir un peu. Et après, oui, t'as toute la partie voyeurisme. Et donc, j'ai fait un peu de lifestyle quand même au début, je pense. Enfin, je me rappelle plus très bien. Mais c'est sûr que j'en ai fait parce que ça marche aussi. Et parce que, en fait, c'est aussi ce qu'on te demande beaucoup. Il y a pas mal de marques qui te demandent ça. Mmh. En fait, t'arrives à un moment donné, un tournant dans ce que tu fais où tu dois obligatoirement te demander l'influence. Enfin, Internet, c'est tellement aléatoire. Ça va tellement vite. Il y a tellement de monde. Que tu dois être sûr de ce que tu veux faire. Donc en fait, moi je me pose souvent encore aujourd'hui, je me dis bon, qu'est-ce que j'ai envie de représenter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, jusqu'où j'ai envie d'aller, quelle image j'ai envie de renvoyer, etc. etc. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça, bah
tu te fais noyer.
Ouais, tu pars dans tous les sens en fait. Après ça peut être aussi un thème.
Non, bien sûr.
Il y en a qui le font, du coup c'est ce qu'on appelle lifestyle, mais qui est pas péjoratif du tout, mais
non,
qui
non,
du coup tu fais de tout, c'est-à-dire tu peux parler à la fois de ta routine matinale du sport comme tu peux parler et ça marche, c'est ce qui marche le mieux d'ailleurs.
Okay.
C'est ce qui rapporte je pense le plus en termes d'abonnés, en termes de suivi, en termes d'argent, c'est ce qui marche le plus parce que bah tu peux travailler avec tout le monde. Mmh. Tu peux faire à la fois de la beauté, tu peux faire à la fois du food, tu peux faire à la fois de la voiture, tu peux tout faire
moi,
en fait.
Moi, d'un point de vue extérieur, tu vois, et même pour connaître les clients, c'est ce genre d'influenceur, pour moi, c'était tellement dilué entre un aspirateur Nike, une soirée de trucs, tu vois, genre... si j'étais une marque, j'aurais du mal à me positionner sur quelqu'un qui est autant
en fait,
volatile, tu vois.
En fait, c'est ça le souci, c'est que quand tu fais ce job, on se rend pas compte, mais tu dois énormément, aller d'un côté de l'autre, je sais pas, je trouve pas le bon
osciller.
Mot. Ouais, osciller entre les gens qui te suivent et ce que les gens ont envie de voir et les marques. Parce que tu sais très bien que les marques, moi par exemple, je sais très bien que les marques, elles aiment pas ce que tu viens de dire. Mmh. En effet, parce qu'on sait pas où t'es, on sait pas ce que tu fais. Mmh. C'est difficile de se placer. Un coup, tu parles de tel aspi, le lendemain, tu parles d'une autre marque d'aspi, machin. Mmh. Ça a pas trop de sens, tu vois. On sait pas.
Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça la vraie vie?
Ouais, voilà.
Parce
les
qu'on
gens,
est pas.
C'est pour ça que je te dis ça.
La vraie vie, ils sont pas à s'acheter un sac Dior le mardi, à un sac Balenciaga le jeudi.
Mais c'est
ça,
pour ça.
Ça n'existe
non, mais tu
pas.
Peux aller chercher.
C'est pour
moi,
ça que
tu
je te
peux aller chercher dans différentes sources, tu vois. T'as des gens qui sont. Ok, tu les suis parce qu'ils parlent tout le temps de quelque chose. Et ben, quand t'as envie de.
Ouais, du coup, tu suis plein de
consommer ça.
Quoi.
Ouais. Moi, je suis plus non. Moi, je suis 5000 personnes. Donc, je suis pas un bon exemple.
Moi, je suis un peu comme ça aussi. Mais tu vois, c'est ça que je dis. C'est-à-dire, les gens, eux, ils veulent. En fait, ils ont envie de suivre une personne ou deux qu'ils aiment bien, qui leur parlent des bons plans chez machin, des codes promo, des machins. Et c'est logique parce que ils ont envie d'avoir une source d'information, ils apprennent un peu plein de trucs, surtout s'ils aiment bien le style de la meuf, bah ils aiment bien, en général quand t'aimes bien son style, t'aimes bien aussi son style en déco, t'aimes bien aussi son style de vie, t'aimes bien donc du coup forcément ce qu'elle mange ou ce que... Donc c'est pour ça que je te dis que ça marche souvent le mieux en termes de retour abonné, etc.
De reach, tout ça.
Reach, ouais, mais après c'est à toi comment tu veux te... Où tu te positionnes. Et moi, par exemple, je savais que je voulais pas faire ça. Mmh. Je voulais pas être lifestyle. Parce que moi, mon rêve d'enfant, c'était d'aller à des défilés, de travailler avec des marques de luxe. De... Donc, c'était la mode plus. Tu vois, c'est mode... mode. Donc,
high
du
fashion.
Coup, voilà. Donc,
c'est quoi ton premier gros défilé où t'es allé la toute première fois et que genre,
putain,
tu devais avoir
que
les...
Tu sais qu'à chaque fois qu'on me pose des questions comme ça, je suis là genre... je sais
je veux dire,
pas
si c'est
trop.
Un rêve, le premier, tu te rappelles pas ton premier gros défilé?
Je sais. Alors mon premier gros d'une grosse marque genre luxe, Fendi.
Ouais. Ok.
Donc Fendi, ça c'était incroyable. C'était le dernier ou l'avant-dernier, enfin
de
un des derniers de Karl.
Avant,
donc,
genre, à la...
Non, il était. Alors c'était pas le dernier, mais il était déjà décédé. Et en gros, c'était la dernière collection qui défilait. Donc c'était à Milan. Et ça, c'était mon premier luxe. Après, premier, je crois que... Et que vraiment, qui était incroyable, parce que c'est une de mes marques préférées, je crois que c'était Acne Studio.
Ouais, cool.
Un des premiers auxquels j'ai été invitée d'une marque un peu plus niche, entre guillemets, voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose des questions comme ça, je suis là genre, oh my god. Je suis nulle en anecdotes, en mémoire et tout. Mais ouais, moi, c'était ça mon but. Donc je savais que pour atteindre ce but-là, je pouvais pas être lifestyle. C'est-à-dire que je savais que si j'allais parler d'Aspi, d'ailleurs j'ai un contrat bientôt.
Dyson
J'ai un gros contrat avec Dyson, ouais, à l'année, mais c'est pas pareil. En fait, t'as des placements.
C'est presque du luxe, Dyson, de
qui peuvent
façon.
Être.
C'est pour l'Aspi ou c'est pour les cheveux?
Là, c'est les cheveux.
Ouais, voilà,
ah, ça
c'est
va,
cool.
Mais ça va peut-être être pour la maison, la future maison. mais ouais, c'est compliqué. T'es obligé. Et en même temps, les marques de luxe sont marrantes, sont gentilles, c'est cool, t'as envie de te faire du high fashion et tout, mais c'est pas eux qui te payent.
Bien sûr.
Donc, il faut gagner ta vie. Donc, c'est hyper difficile. Et je pense que ça, les gens, ils s'en rendent pas trop compte, de trouver le juste milieu. Parce que quand tu postes beaucoup de luxe, t'as les gens qui viennent te dire « mais on peut pas se permettre, nous, de s'acheter du luxe et tout ». Quand tu postes du fast fashion, on te dit « c'est fast fashion, c'est pas bien, c'est machin, c'est acheté en Chine, c'est les cons, bref, fabriqué là ». Et oui, mais j'essaye de, tu vois, juste... déjà, et puis surtout, j'essaye... Enfin, moi, je fais ce que je fais vraiment. C'est-à-dire que là, sur moi, j'ai un truc fast fashion, j'ai un truc Balenciaga, j'ai des chaussures Jonac. Enfin, tu vois, j'ai de tout, en fait, parce que... Je fais ce que je peux, c'est-à-dire que je suis allée à une vente privée Balenciaga, bah je me suis acheté des trucs Balenciaga, voilà, tu vois, je vis, quoi. Donc du coup, c'est dur, ouais, c'est ça qui est dur, donc entre les marques et entre les ce que les gens veulent voir. Et voilà, les marques, tu
donc
sais
toi,
que...
c'est quand même, t'as une grosse réflexion sur ça.
Ouais, j'y pense beaucoup, je me remets beaucoup en question, j'en parle beaucoup, puis j'en parle beaucoup avec Hugo, du coup, mon copain, qui lui, bon, lui, il est dans la mode aussi, donc lui, il a plus de recul, puis lui, il est plus... Bah, du coup, high fashion, tu vois, donc lui, il va tout de suite me dire ah, ça, non,
ouais,
ou ça, tu peux le faire. Mais tu vois, avant, tout au début, quand je l'ai rencontré, il avait...
Pardon.
Pas grave. Attends. Ouais, ouais. Merci. Quand je l'ai rencontré, il est comme pas mal de monde et c'est pour ça que c'est bien de faire, je trouve, ce genre de podcast et tout aussi assez radical sur les influenceurs. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens, ils ont beaucoup d'idées arrêtées. Mm. Ce que je peux comprendre, mais je trouve qu'avec le temps, bon, il s'agirait de se renseigner, tu vois, parce que bon...
Se détendre un peu.
Voilà,
aussi.
Tu vois. De trucs de genre, les influenceurs, elles font 3 selfies, elles gagnent 20 000 euros par mois, tu vois, on est un peu bébête, on fait pas grand chose, bref, tout ça on le connaît.
Et là, il a vu l'envers du décor.
Bah oui, là, je lui explique, déjà, je lui ai dit, c'est pas possible de penser comme ça, parce qu'en fait, il faut donner le bénéfice du doute un peu à tout le monde, tu vois, genre, voilà. Y a, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des nuances. Et puis, surtout, il s'est rendu compte qu'il s'agit aussi d'argent, enfin, il faut vivre. Donc, ouais, c'est gentil de travailler avec des belles marques, d'essayer de faire de l'image, mais. Il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut rentrer des sous, il faut repayer les maisons, il faut garder en vie les enfants, tu vois. Ouais. Donc voilà, il faut bosser aussi. Et malheureusement, c'est pas le high fashion qui te fait... mais ça te fait travailler dans un sens, parce que quand t'as une belle image, que ton image est bonne,
ouais,
et que tu travailles avec des grosses marques qui ont aussi une belle image, du coup, les autres marques un peu plus petites derrière ont envie de travailler avec toi. Mm-hmm. Mais si tu travailles avec certaines petites marques derrière, les grosses marques n'auront plus envie de travailler avec toi. Donc,
c'est tout un travail d'équilibriste.
Ouais. Puis il faut parler, en fait. Il faut communiquer aussi.
Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi.
Beaucoup d'hypocrisie, bien sûr. Et puis,
moi, c'est un truc qui me choque. Moi, je viens pas du tout de la fashion, tu vois. Ouais. Donc, ces codes-là, moi, je m'en bats les couilles concrètement, tu vois. Et je vois des gens, tu vois, qui se détaguent de trucs. Ouais. Qui font toujours, voyez, mais moi, si, moi, ça. Et en fait, on est sur les mêmes jobs, tu vois. Ouais. Genre, moi, je l'assume totalement parce que c'est ma personnalité. Après, je juge pas les autres.
Mais
il y a vraiment une grande hypocrisie sur ça dans le milieu de la mode, tu vois. Tout le monde travaille pour les petites marques. Tout le monde va prendre
sûr.
Les oseilles où elle est.
Mais
faut juste être réaliste, tu vois, et arrêter de mentir aux
c'est
gens.
Ça. Moi, quand j'accepte un job avec une petite marque, j'y vais à fond. Enfin, une fois que je l'ai accepté.
Exactement.
Tu vois, si derrière, il y a une grande marque qui dit, vas-y, elle a travaillé avec telle, je veux plus, alors salut. Il y en a, par exemple, moi, il y a des marques avec qui de luxe, avec françaises, avec qui je travaille pas. Et c'est pas, je pense, alors peut-être c'est positionnement, j'en sais rien, je n'aurais pas parlé, donc je veux pas savoir. Mais il y a aussi dans la mode, il y a ici énormément de contacts. Donc tu sais très bien que demain tu rencontres le RP de telle marque et puis ça se passe bien, il y a un bon contact, potentiellement tu vas travailler avec la marque ensuite, tu vois. Il y a aussi ça, tu vois, il y a pas que non plus ton travail, malheureusement.
Ah non, c'est beaucoup,
ça serait bien.
Beaucoup de copinage, beaucoup de qui va en soirée, qui croise qui.
Bien sûr. Et moi, c'est un peu mon point faible, ça, dans mon job. Mon gros point faible, même, c'est que je suis pas très sociable. Je sors pas des masses. J'aime pas trop ça. Je suis plutôt casanière. Puis j'ai ma fille. Donc voilà, donc moi, je perds beaucoup d'opportunités, comme on dit, dans le milieu, de rencontrer les bonnes personnes, encore avec des guillemets, comme on dit. Mais parce que ça me gave, en fait. Et puis parce que je me dis, les RP, selon moi, c'est leur job aussi, tu vois, d'aller chercher les bonnes personnes. Donc oui, il y a le copinage, ce qui peut être cool, mais un peu dommage dans certaines situations. Et s'ils veulent vraiment trouver les bonnes personnes et que moi, à ce moment-là, je corresponds à cette campagne, c'est son travail aussi de, tu vois, de dire, pourquoi pas prendre cette meuf, tu vois. Et c'est pas parce que je serais allée à telle soirée. Donc, bon, faut le faire. Donc, moi, par exemple, en Fashion Week, je le fais. Parce que Fashion Week, voilà, bien c'est sûr, le moment, ça dure 2-3 semaines. Je suis là, je fais tout, je vais à tous mes jobs, je fais ma présence. Et le reste du temps, j'ai ma vie à côté. Et au-delà de ce qu'on adore et notre job qu'on adore, moi, mon... priorité numéro 1, c'est ma fille, donc donc la balance est compliquée parfois. Ouais. Il faut la trouver.
Tu veux parler un petit peu de ton rôle de maman, de la place que ça a pris dans ta vie assez tôt, comment t'as géré ta carrière avec la venue de ta fille et tout?
On peut. En fait, je suis tombée enceinte à 24 ans, donc assez jeune. J'ai accouché à 25 ans, du coup. C'était pas prévu. Arrivait par hasard. J'ai eu une grossesse très compliquée, donc j'ai dû rester allongée pendant 4 ou 5 mois. Donc du coup, j'ai encore plus mis en parenthèse mon travail, puisque allongée, pas grand-chose. Donc j'ai vraiment pratiquement disparu des écrans radar pendant un moment. Je continuais de faire des stories et tout, mais en fait, pour dire quoi, c'est-à-dire que je suis dans mon lit. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai pris un... tu vois, tu parlais d'un tournant tout à l'heure, je pense que ça a été un passage... Parce que, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai unfollow plein de monde. Je me suis changée. En fait, je me suis dit, OK, c'est quoi, genre ça me rend pas bien, ça mentalement ça me va pas, ça me fait culpabiliser, ça, tu vois, des trucs que tu, voilà, que tu des gens que tu suis ou des choses qui te font te sentir mal. J'ai tout changé. J'ai arrêté, tu sais, quand t'es influenceur, tu parles face caméra et tout, tu racontes des trucs. J'ai complètement arrêté, mais pas parce que je trouve ça pas bien, mais parce qu'en fait, j'avais rien à dire. Mm-hmm. Donc pendant 4 mois, je l'ai plus fait. Et du coup, depuis, souvent, on me demande d'ailleurs, genre, oh, tu fais jamais de story face cam ou tu parles pas. Mais parce qu'en fait, j'ai perdu totalement l'habitude pendant cette période et j'ai jamais su reprendre, faire ça. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai changé radicalement tout ça pendant ce temps. Ensuite, j'ai accouché et voilà. La grossesse, ça a été extrêmement traumatisant. Je ne recommencerai pas, mais ça, c'est mon point de vue. Et la maternité aussi, au départ, un peu compliquée parce que bah, je voulais pas... Enfin, sur le process, au départ, je voulais pas d'enfant à ce moment-là. Donc, tu sais, en plus, t'as une grossesse difficile. Donc, ton cerveau, il capte pas trop l'information que là, maintenant, tout de suite, c'est ça que tu vas faire de ta vie, en fait.
Ton main focus, c'est sur ça, quoi.
Oui, en fait, c'est tellement violent, en fait. Ça va si vite que ouais, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, que c'était ça mon rôle maintenant. Enfin, un de mes rôles, en tout cas. Et en fait, c'est ça aussi qui est super dur quand t'accouches et que t'es maman et tout, c'est que la société veut que ce soit ton rôle, en fait. C'est ça ton rôle maintenant, t'es maman. Genre, t'es mère. Genre, voilà, t'es la mère d'eux. Mais en fait, du coup, ton positionnement, mon positionnement était super compliqué parce que je voulais pas faire ça. C'est-à-dire que je voulais être la mère de ma fille, mais je voulais pas que faire ça, en fait. Et du coup, tu culpabilises parce que tu peux pas le dire, parce que personne veut l'entendre, parce que c'est un peu inaudible de dire « vas-y, oui, alors j'aime ma fille, mais et les gens peuvent pas. » T'es obligé de préciser. « Mais j'aime mon enfant, mais je veux travailler. » Mais en fait, bien sûr que je l'aime, c'est pas une expérience, on parle pas de ça. Du coup, c'est super dur de trouver tout ça, mais j'ai fini par réussir à me positionner, j'ai retravaillé tout de suite parce que j'étais restée allongée bien trop longtemps pour encore rester en congé quelques temps. J'aurais pu, mais en fait avec mon job aussi, ce qui était bien, c'est que je la déposais par exemple chez la nounou à partir de 3 mois, je la déposais quelques heures, j'allais dormir, je la récupérais, je travaillais, tu vois. C'est pas pareil que quand t'as un job vraiment avec des horaires où tu dois aller au boulot et tout. Là, je pense que c'est d'autant plus difficile parce que c'est dur de récupérer. Et du coup, ouais, j'ai retravaillé tout de suite, je suis retournée faire mes photos, faire mes trucs, j'ai tout de suite repris. Alors là, j'ai fait un peu de lifestyle, tu vois, cette période, parce que j'ai fait pas mal de trucs sur les bébés. Je montrais pas ma fille, mais voilà, j'avais reçu par exemple plein de trucs pour enfants, donc j'en ai parlé un peu, mais j'ai fait un partenariat en fait global avec une marque. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit non, en fait, moi, je veux pas...
tomber dans ça, quoi.
Je veux pas, oui, déjà je veux pas être lifestyle, mais surtout je me suis dit, moi je sais que si je reste 24 heures sur 24 avec ma fille, c'est à dire que je suis juste maman, je suis pas bien en fait, c'est pas moi, j'arrive pas, je suis pas épanouie, du coup je suis pas agréable, du coup j'ai l'impression de pas être une bonne version de moi-même pour ma fille et tout. C'est pour ça que je suis retournée travailler tout de suite, parce qu'en fait ce temps off que j'avais, genre 4 heures, tu vois, même 4 heures par jour ou 2-3 heures aller faire mes photos. Après, je me sentais moi-même, tu vois, je me sentais bien, je me sentais plus épanouie, plus accomplie et tout. Et en fait, j'ai compris comme ça que c'était ce rythme-là, moi, qu'il me fallait. Et que moi, j'ai plein de copines maintenant. Moi, j'étais toute seule quand j'ai eu ma fille. J'étais vraiment la seule de mes copines. J'avais personne dans mon entourage qui avait d'enfants. J'avais juste mon neveu et ma nièce. Mais maintenant, mes copines, tu vois, j'en ai certaines qui aiment trop être mère au foyer. Et genre, je le comprends, mais de ouf. Mais moi, je peux pas le faire. Tu vois, genre, je pense qu'on est vraiment toutes très différentes là-dessus. Et voilà, moi, mon équilibre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille. Alors, peu importe le job, mais il faut que je travaille. Et du coup, quand je récupère ma fille, après, voilà, je suis contente, j'ai fait ma journée, j'ai accompli mes missions et je me consacre entièrement à ma fille. Alors, ça va vite parce qu'elle se couche tôt, mais genre, je sais pas, c'est 3-4 heures le soir. Et voilà. Et voilà, c'est ça mon équilibre, quoi. Je travaille la journée, je la récupère. Maintenant, elle est à l'école, donc c'est plus facile.
Ouais.
Les horaires classiques de l'école, voilà, mais c'est comme ça que je gère. Au début, en plus, moi je suis plus avec son père, donc ça a été tout un process, ça aussi un peu compliqué. Au début, ça se passait, enfin, c'était plus facile parce qu'il était là, donc forcément, voilà.
Ouais, t'as un soutien.
Ouais, bah oui, bah, c'est son père, quoi. Donc, voilà, il gère, puis lui aussi il travaillait comme moi, on est indépendant, donc c'était plus facile de gérer, tu vois. Quand t'as ce genre de job, honnêtement, ça par contre, on peut pas le retirer, c'est plus simple. C'est plus simple quand tu fais tes propres horaires, quand tu t'organises comme tu veux. plutôt que quand t'as des jobs avec des bureaux et des patrons, tu vois.
Je pense que là, les gens l'ont découvert. Enfin, beaucoup plus de gens l'ont découvert avec le télétravail. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui n'ont pas envie de retourner au bureau.
Ah, mais c'est...
Ils se rendent compte qu'ils peuvent être plus efficaces, qu'ils peuvent organiser leur journée, mais faire à la fin de la journée autant de travail, voire plus. Et tu passes plus de temps avec tes enfants, avec du temps pour toi. C'est vraiment une...
Ah bah, quand tu télétravailles alors que tes enfants sont à l'école, c'est bien. Et quand tu télétravailles avec tes enfants, ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est pas possible, ça par contre. Vraiment. Et pareil, moi quand elle était bébé, tout le monde me disait tu peux faire des jobs quand elle dort. Mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas travailler avec un. Enfin, franchement, travailler avec un nourrisson ou même un enfant en bas âge, c'est très difficile parce que t'es interrompu tout le temps en fait. Donc ton cerveau, tu peux pas te concentrer sur une tâche. Ça c'était moins marrant, le télétravail avec enfants. Bon, moi j'en ai pas fait parce que quand on s'est arrêté complètement là, le premier confinement total, internet aussi s'est arrêté, les marques se sont arrêtées, l'influence s'est arrêtée, donc moi pendant 3-4 mois je faisais rien, c'était bien, c'était sympa, c'était très sympa.
Beaucoup de gens qui se sont arrêtés. J'ai une petite question qui a rien à voir, ton business tu le gères comment, c'est toi qui le gères, t'as été dans une agence, t'as un agent, quand ça a commencé à pick up et que tu t'es dit bon ok là il y a du business qui rentre. Ça a été quoi ton choix ?
Alors, j'ai toujours plus ou moins géré toute seule. À un moment donné, j'ai été, il y a longtemps, vraiment au début, je pense il y a 6 ans, j'étais dans une agence pendant un temps, qui c'était les premières agences, tu sais, d'influence, vraiment influence. Je suis restée peut-être max 6 mois, parce que ça se passait pas comme j'avais envie. En fait, je suis pas contrôle fric, mais j'aime bien savoir. C'est-à-dire que quand il s'agit de moi, en plus, là, le problème dans ce genre de job, c'est que c'est quand même ton image. C'est-à-dire que, tu vois, ça marche aussi, par exemple, quand tu sais, il y a des gens qui te parlent de commentaires négatifs, faut pas prendre personnellement, c'est impossible. Enfin, tu peux, moi, j'arrive vraiment à me détacher, et c'est pareil pour quand c'est quelqu'un d'autre qui gère ton job, j'arrive à me détacher, mais c'est quand même moi, en fait. Moi, ce que j'ai mis sur Internet, c'est pas un personnage. J'ai pas créé un monde, j'ai pas créé un faux truc, je me suis pas créé un pseudo. C'est moi, en fait. Donc, quand tu postes un truc et que les gens détestent, c'est obligé d'être un peu personnel, parce que c'est quand même toi. Donc là, pareil, quand t'as un agent, il gère toute ta vie. Enfin, moi, je peux pas être comme ça, en retrait, juste exécuter. J'ai envie de savoir... Qui me parle, c'est qui l'interlocuteur, j'ai envie de connaître les montants, parce que pareil, ça tu vois pas, tu vois les budgets, à tout moment le gars il négocie un truc de ouf et finalement toi tu récupères pas beaucoup mais tu veux pas le savoir, c'est pas transparent, donc moi ça me dérangeait beaucoup, et à l'époque c'était pas, tu sais, ils voulaient des exclus, c'était super, c'était un peu chiant avec ça, du coup je suis sortie. J'ai dit moi je kiffe pas, en plus tu sais parfois t'es dans une agence. Par exemple, t'as une relation avec une marque, je sais pas, genre, là je te redis Fendi, demain je rentre dans une agence, Fendi, elle me contacte, lui il prend le contact, à tout moment, il dit « Ah, au fait, à la meuf de Fendi, j'ai telle meuf, tu vois, donc au final, toi t'as bossé derrière, t'as créé des contacts avec des gens, et puis eux ils réutilisent ton... » Enfin, c'est super dur, je trouve, de savoir qui est vraiment là pour toi, qui veut vraiment faire le truc avec toi, machin, donc je suis sortie. Après, j'ai toujours été toute seule. J'ai jamais voulu retourner dans une agence, ou alors quand je travaille avec des agences, c'est juste sur un one shot. En fait, il y a souvent des agences entre les marques et nous.
L'opportunité.
Voilà, il y a pratiquement tout le temps même des agences ou des RP entre nous et les marques. C'est assez rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on soit en direct avec les marques. Et récemment, enfin pas récemment, ça fait quand même 3-4 ans, j'abuse. J'ai une de mes meilleures amies qui est agent aussi, mais qui est agent plus de rappeur, musique, tous ces trucs-là. Donc elle travaille beaucoup avec Hugo d'ailleurs. Du coup, elle gère pour moi, c'est-à-dire que soit elle m'amène, notre deal, c'est qu'elle m'amène des contrats. Donc si elle amène des contrats, c'est elle qui les gère. Bah, normal, c'est elle qui l'amène. Donc voilà, elle prend son pourcentage. Et si moi, par exemple, on me contacte et que c'est des gros trucs que j'arrive pas à gérer, je sais pas, c'est des demandes, c'est du droit d'image, tu sais, parfois ça va dans des trucs, voilà, je lui confie. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis ça reste une de mes amies, donc même parfois elle est contactée pour des contrats qui sont petits, elle est tellement, enfin on est tellement proche, tu vois, qu'elle va me dire... pas de pourcentage, je te le donne, genre je le gère, mais genre je prends, tu vois, et moi c'est vraiment ça que j'ai besoin d'une relation qui soit complètement transparente comme ça, et qui soit, tu sais, quelqu'un qui me comprend, qui me connaît, qui fait les trucs pour moi, tu vois, pas quelqu'un qui juste gère une agence, il y a quelqu'un qui le contacte, il propose tous ses profils, et puis il dit vas-y choisis,
genre, c'est le pire.
Bah ouais, enfin ah ouais, après. Bah parce que je trouve que sinon ça fait tout de suite. Bah en fait, ça fait mannequin. Tu vois, genre moi j'ai déjà été dans une agence de mannequin jusqu'à mes 18 ans, j'étais chez Success. Mm-hmm. J'ai fait des castings, j'ai fait des trucs, je sais comment ça marche, tu vois. Mais nous on est. C'est pas du modèle. Enfin, c'est un peu du modeling, mais nous on donne notre avis, tu vois. Genre on va dire, ah oh, bah j'ai choisi. Les gens quand ils voient la marque, c'est parce que.
Ouais, ton image de marque à toi.
Ouais, oui, puis ils nous demandent, ah oh, tu sais, parfois ils oublient que parfois on reçoit des trucs, puis ils nous disent, ah oh, quand t'as commandé, c'était long, les frais de douane, le colis il était bien, c'est produit où. Tu vois, ils nous posent des vraies questions de consommateurs, tu vois, parce que nous on est censé vraiment donner notre avis sur le truc, comment le sac il a vieilli, est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que machin. C'est pas du mannequinat, genre où tu poses et puis on s'en fout, demain tu poseras pour autre chose. Et on sait que t'es mannequin, tu vois, t'es... Et du coup, c'est pas pareil, je trouve, tu vois, si tu peux pas faire... Je trouve que tu peux pas faire ce travail d'agent de la même manière sur un influenceur que sur un mannequin.
Ouais, complètement.
Et je trouve que malheureusement, il y a plein d'agences qui le font, même des grosses agences de mannequins, là, qui ont créé des pôles influence et tout, et ils le font de la même manière. Moi, je trouve que c'est dommage, tu vois, je trouve qu'ils comprennent pas que c'est...
C'est une culture spéciale, je pense que si t'as pas vraiment les codes à 100%, comme tu dis... Je pense pas qu'aujourd'hui un agent de mannequin soit bon pour faire ça et vice versa, quoi. Ou alors faut vraiment qu'il apprenne et qu'il comprenne le type de relation que vous avez justement avec les RP, les marques et comment vous-même vous êtes une marque, quoi.
Bah là, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai été contactée par une agence, une grosse agence de mannequins là, qui fait ça, crée un pôle. Et au final, je l'ai pas fait. Et même eux, au final, le dernier rendez-vous qu'on a eu, ils m'ont dit non, finalement, ça va pas le faire et tout. Mais parce que moi, j'étais hyper exigeante. C'est-à-dire que j'ai eu mon rendez-vous et je leur ai dit, mais déjà, est-ce que tu peux me certifier qu'avec ton frais d'agent, je vais gagner la même chose que j'ai gagné cette année déjà. Tu vois, déjà, c'est ça qui est compliqué pour moi. Parce que moi, je fais tout toute seule depuis tout ce temps. Je peux pas me permettre de gagner moins. Parce que c'est normal. Enfin, tu as une entreprise, tu te dis, bah, l'année prochaine, je vais faire pareil ou un peu plus. Tu vois, t'essayes. C'est tes objectifs, tu te fixes des objectifs. Donc quand l'agent il arrive, il te prend 30 ou 40%, c'est énorme, il faut ramener plus. Voilà, tu vois, donc déjà tu peux me le certifier ça, oui, non, bon, t'es nouveau, donc déjà tu sais pas. Ensuite, est-ce que tu... Moi j'ai du mal à te dire, bah, les marques avec qui j'ai créé des relations depuis 5 ans, bah, d'un seul coup c'est toi qui reprends. Tu vois, du coup, je lui ai dit, je veux bien faire avec vous, mais juste les marques que moi je connais bien, genre il y en a, je sais pas, une petite dizaine, tu vois, il n'y en a pas des masses, je les garde, tu vois, parce que c'est moi qui interagis. Alors tu peux être dans la boucle, tu vois, je t'introduis et tout, mais je suis quand même là. Ah oui, mais non, c'est une adresse email particulière, c'est machin. Non, tu vois, ça veut dire que moi je suis pas, à aucun moment pratiquement, je suis dans le.
Ah, inclus.
Je suis dans le truc, juste je fais mon job. Moi, ça, c'est pas possible pour moi. Genre, il faut que je sois dans le truc, tu vois, avec ma celle avec qui je travaille, là, qui s'appelle Mariama, je suis en copie. Je vois tous les mails, je réponds pas parce que c'est elle qui répond, mais je les vois. C'est-à-dire que quand elle m'appelle, elle me dit ouais, t'as vu, je dis ouais, j'ai vu. Genre j'ai lu, tu vois, je suis pas intervenue. Et quand la marque parfois parle à Mariama, elle dit oui, le contenu, il faudrait qu'il soit comme ça, est-ce qu'on peut refaire ça, est-ce qu'on peut recevoir le contenu, là j'interviens. Je dis ok, il est là le contenu, oui, je vais refaire parce que Mariama, elle va pas m'appeler et me dire oui, c'est trop blanc, il faudrait baisser la lumière des blancs, il faudrait mettre la luminosité. Je le vois le mail, tu vois, genre je pas. Et du coup, j'interviens, tu vois, parce que là, il s'agit de moi. Donc c'est. Et tu vois, comme ça, c'est plus simple. Mais souvent, les agences, elles font pas ça. Souvent, elles te bloquent, en fait, complètement.
Ouais.
Et pour moi, ça, c'est impossible. Genre, je peux pas le faire. Mais si je commençais, je pense que j'aurais pris une agence. Enfin, ouais, je comprends que quand tu commences, ils te donnent des contacts et tout. Enfin, tu vois, ça peut être pas mal.
Ah, c'est pas mal. Mais t'as une approche quand même très business hein, de ta carrière.
Ouais, bah t'es obligé, hein. Parce que tu sais très bien que c'est des métiers quand même qui sont éphémères. Enfin, tu n'y penses pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me pose souvent la question, c'est une question qui revient tout le temps, genre qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, comment tu vois le truc. Bah, je sais pas, déjà, j'y pense pas. Parce qu'en fait.
Styliste photo.
Voilà, oui, voilà. Non, mais tu penses pas parce que sinon, tu commences pas, en fait. Quand tu commences des métiers comme ça, tu peux pas te dire, ah ouais, mais dans 10 ans, parce que en fait, du coup, tu fais pas. Parce que ça fait peur. Tu sais très bien que dans 10 ans, à 45 ans, tu te doutes qu'a priori, 50 ans, tu seras pas influenceur. Enfin, tu peux, hein.
Qui sait ?
Non, mais tu
Qui
peux. Sait. Mais,
mais après, les
au
trucs
départ...
changent tellement. Genre,
oui,
l'influence
l'Internet, ça va tellement vite.
De maintenant, c'est complètement différent. Donc...
Déjà. Et puis, par contre, en revanche, moi, j'ai extrêmement foi en Internet. Pour moi, Internet, c'est vraiment l'avenir. Donc, il y a de la place pour tout le monde, pour moi. Tu vois, c'est vraiment genre... Et c'est pour ça que, par exemple, j'adore les nouvelles applis. Par exemple, moi, là, j'adore TikTok. Mmh. Plein de gens qui aiment pas, mais moi, j'adore. Parce que je trouve ça génial. Que t'es des gens qui débarquent de nulle part, et c'est-à-dire que ça prouve à quel point sur Internet tu peux sortir de nulle part et devenir quelqu'un,
truc,
tu vois. Et moi je trouve ça, alors devenir quelqu'un, il y a faire ce qu'on disait tout à l'heure, genre faire nimp, et il y a faire devenir quelqu'un grâce à ton art, tu vois. Il y a des gens sur TikTok, moi je suis une meuf qui fait de la poterie, elle a des millions d'abonnés, elle fait des trucs super beaux, il y en a qui font des peintures de ouf et qui vendent grâce à TikTok, qui, tu vois. Et moi, je trouve ça dingue. Genre, moi, ça, je me dis, mais c'est génial. Et c'est pour ça que j'adore Internet. Tu vois, parce que je me dis, il y a toujours de la place pour faire des trucs sur Internet. Après, c'est difficile, il faut persévérer. Mais voilà, et c'est d'ailleurs le conseil que je donne, parce qu'on me, on me dit souvent, ouais, c'est quoi, comment tu fais pour réussir sur Internet? Mais franchement, il y a un peu de chance, mais je pense que, en fait, c'est de la consistance. Internet, tu peux pas dire, ah, je poste deux vidéos et ça marche pas, j'abandonne. Il faut poster, il faut poster, il faut poster, il faut poster.
C'est pareil avec le podcast, hein, c'est exactement la même chose. Il faut toujours, toujours, toujours être présent.
Ouais, il faut poster. Faut exister, quoi. Faut être là. Et puis un jour, tu sais pas, il y a une vidéo, un podcast, un truc qui va pop-up, tu sais pas pourquoi. Enfin, genre, après ça, c'est ça qu'on appelle la chance. C'est-à-dire que parfois, t'as des algorithmes, des facteurs, des trucs aléatoires. Mais voilà, il faut être consistant, quoi. Genre, faut être là. Ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi.
On parlait un petit peu d'après. T'as lancé la... Ouais. La marque pour enfants Oa Kids, le prononcement, c'est ça.
Ouais.
C'est quoi la démarche, c'est quoi la volonté? Est-ce que c'est juste un constat que t'as fait en ayant ta fille, en essayant de l'habiller un peu cool et tu t'es dit putain, il y a pas beaucoup d'options?
Ouais, exactement. Bah c'est ça, ouais. Je quand j'avais ma fille, je me suis rendu compte que t'étais obligé de l'habiller en paillettes, en Disney ou rien en fait, ou en rose. Tu sais, il y a toujours des motifs, toujours des trucs. Il y a pas de trucs simples en fait. Pas de truc uni, enfin genre tu te dis mais c'est pas possible, enfin, genre je peux pas, on peut pas être bariolé toute la journée, tu vois, à un moment donné faut trouver des solutions. Donc ça m'a vite agacée, et donc je me suis dit, j'y pensais, mais bon, enfin entre y penser et le faire, il y a quand même un monde. Ouais. Et surtout que bon, au final j'ai fini par m'y mettre. Donc le thème, enfin le truc de la marque, c'est d'être basique et oversize, donc en fait, et unisex, c'est-à-dire que c'est des vêtements pour enfants de 2, pour l'instant on fait 2-5 ans, parce qu'on pouvait pas faire plus, mais j'espère qu'on pourra monter. 2-5 ans, c'est noir, gris, blanc pour l'instant. Là, cette saison, on rajoute des couleurs, mais le départ, c'était ça. C'est oversize parce que, par exemple, quand t'as 2 ans et quand t'as 4 ans, le truc te va toujours. Alors à 2 ans, il est très oversize, mais du coup, ça rend le truc un peu cool. Quand t'as 4 ans, il te va un peu plus cintré, mais c'est pas non plus serré. Tu vois, donc en gros, le vêtement grandit avec l'enfant, donc ça, c'est cool aussi. Parce que du coup, t'es pas là en train de racheter toutes les 2 secondes des trucs. Et voilà, unisex, parce que voilà, ça va, on va pas faire des genres pendant encore 100 ans, tu vois. Donc voilà, c'était le thème de départ, et il s'avère que quand on est sorti, genre 2-3 mois après, enfin 6 mois après, c'était le confinement, donc c'était un peu plus compliqué, et surtout Zara a sorti une collection basique pour enfants qui est exactement pareil, c'est-à-dire exactement la même chose, des hoodies à capuche avec des couleurs unies, truc que tu trouvais pas avant. Donc ça devient un peu compliqué, parce que c'est sûr que Zara concurrence. C'est le prix, en fait. Mais après, voilà, moi, par exemple, j'achète rien chez Zara. Pour ma fille, j'achète des trucs, mais pour les adultes, j'achète pas, parce que, voilà, production...
Il y a des options.
Bah voilà, donc là, en fait, c'est soit tu te dis, bah, je prends moins cher, soit tu te dis, je fais fabriquer en France. Enfin, voilà, c'est... Nous, on fabrique en France. Là, on change tous les ateliers et tout, donc c'est un peu long, mais voilà, Europe ou France, max.
Ouais, quand tu dis donc, t'es toute seule, tu t'es associée?
Alors non, je suis toute seule, financement, tout est seul, mais juste là je te dis on, parce que depuis janvier j'ai pris une assistante, enfin c'est mon assistante sur l'affluence, mais sur Oa Kids, elle est chef de projet, donc c'est elle qui gère tout ça là, les ateliers, les trucs, machin.
Très bien.
Donc moi je suis derrière, mais moi j'aime bien faire les shoots, tous ces trucs là, mais...
Du coup, tu shootes ta ateliers. Fille pour ça
Alors là, j'avais ma fille principalement, mais je prends toujours un petit garçon avec elle. La première collection, j'avais pris 3 autres enfants, parce que j'essaie d'avoir différentes tailles, différents genres, voilà, tu vois, de tout le monde, quoi. Donc, mais c'est sûr que les prototypes et tout, je les essaye sur ma fille, mais bientôt elle va dépasser, elle a 5 ans. Donc,
c'est pour ça qu'il faut étendre la gamme.
C'est pour ça qu'il va falloir que j'aille plus haut. Mais voilà, on a commencé comme ça, et après il y a eu le Covid, après on a refait une petite collection, et là j'ai décidé de tout changer, c'est-à-dire je change les modélistes, je change les ateliers, je change tout, donc ça me prend beaucoup de temps, mais j'espère trouver le bon truc pour, normalement cet été on ressort toute la collection de base et des nouveaux trucs, donc ça va être cool. Ouais. Et du coup, bah oui, je suis financée toute seule, mais là, j'ai plusieurs propositions d'achat. Je suis contente dans des magasins, donc ça va pouvoir m'aider aussi.
Ah, trop cool.
Ouais, ouais. Non, c'est bien, je suis contente. On va voir si ça se fait, mais
bon,
ouais.
C'est trop bien.
Donc, peut-être que je ferai ça après.
Bah,
que
ouais.
Ça.
Bah
voilà.
Pendant,
ça
commence après.
À... Mais oui, mais parce que c'est,
la transition.
C'est difficile, en fait, moi, je trouve, de créer un projet quand t'es pas à 100%. Genre, je sais que si, par exemple, je faisais que ma marque... Et je pense, bon alors je te dis pas que ça y est, je serai dans le monde entier, mais je pense qu'elle sera à un autre niveau parce que je ferai ça tout le temps. Mmh. Mais comme je fais ça, on va dire à 40%, mmh. bah ça va lentement, du coup tout est lent, parce que là j'ai pris quelqu'un, mais voilà, j'allais me faire un jour par semaine où je m'occupe de ça, tout le reste du temps je faisais l'influence, donc du coup bah tout prend plus de temps, tout... c'est pas pareil que si j'étais focus 100% sur la marque, tu vois, je pense que je serai à un autre niveau, donc peut-être que si... un jour j'arrête l'influence, je pourrais me consacrer 100% et faire que ça. Mais en fait, c'est le but. En fait, quand j'ai commencé la marque, je me suis dit,
je prépare la suite quand même.
J'aimerais 5 ans, en fait, dans 5 ans, j'aimerais pas faire d'influence, ou très peu, c'est-à-dire faire vraiment des trucs, vraiment que genre un truc par mois, tu vois, ou un truc tous les deux mois, genre que j'aime trop, et que ça. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là.
On espère que ça arrivera, en tout cas.
Ouais, bah moi aussi. Je compte sur Hugo. Je compte sur Hugo pour arrêter de travailler. Je lui ai pas dit encore, mais...
Ah bah, il entendra le message en live.
Il faut bosser.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux aborder? On coupera ça, hein, mais est-ce que tu veux aborder un autre truc? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur?
Oh, à kids, machin, j'ai dit... Non... Tout à l'heure, je vous ai parlé vite fait des réseaux sociaux, genre le côté
ouais, moi, j'aimerais
critique,
bien qu'on parle
machin.
De ça. Si je l'ai fait.
De quoi?
Bah, le côté négatif des réseaux sociaux.
Oh. Ouais, tu penses qu'on n'a pas assez dit? Vas-y.
Ok. moi, quand je vois les gens qui font de l'influence hein, de toutes sortes, j'ai toujours ce truc. Moi, je suis très privé sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai jamais mis ma gueule ni rien, tu vois. Et je poste quasiment que des trucs de taf. Mais des fois, je lis les commentaires. Et moi, je suis d'une génération qui a grandi sans Internet, tu vois. Et quand je me dis ce que les gens sont capables de dire et d'écrire, c'est d'une violence des fois. Genre, tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, toi, comment... Je veux dire, les premiers que t'as pris, tu l'as ressenti comment?
Bah déjà, je trouve ça assez fou d'avoir le temps d'aller sur Internet pour mettre des commentaires négatifs. Genre, moi, je me dis toujours, mais enfin...
T'as vraiment le time.
Bah déjà le temps et puis à quel point tu te sens mal, tu vois, pour parce que moi il y a plein de trucs que j'aime pas sur Internet
comme tout le monde.
Mais genre jamais de la vie j'écris des commentaires. Genre là Kanye West là,
tu l'envoies à tes copines
tu fais des DM, tu slides et tout, bien sûr ça c'est la base. Genre là par exemple Kanye West qui pète un plomb, bah jamais de la vie tu lui écris un commentaire en mode c'est Kanye West, qu'est-ce qui se passe, tu peux pas harceler Kim Kardashian comme ça, tu vois, genre tu dis rien, enfin tu en parles à tes potes machin, et c'est fou je trouve de prendre le time d'aller écrire un truc. Déjà moi ça me passionne, et moi j'en ai eu un peu au début, mais c'est vrai que j'en ai très peu maintenant. Mais en fait je pense que plus t'as d'abonnés, plus t'as de commentaires négatifs, plus t'es exposé, plus l'un va avec l'autre. Moi j'en ai pas de ouf, mais aussi parce que je me protège beaucoup, dans le sens où par exemple sur les stories sur Instagram tu peux pas me répondre à mes stories si moi je te suis pas, donc déjà il y a pas de
ça.
Bah déjà tu peux pas réagir de cash, c'est parce que quand t'as les stories ouvertes tu reçois genre franchement 200 messages par jour, soit des emoji cœur machin, donc c'est gentil, mais genre ta boîte elle est genre pleine. Et tu reçois des gens qui vont te dire « Oh, c'est moche, mon machin ». Tu sais, qui réagissent, tu sais. Tu sais, genre, t'es là, mais enfin, voilà.
Tu sais, moi, je suis pote avec Yougnat, et des fois,
Moi, je le suis aussi.
Qui lui envoie, mais parce qu'il y a des trucs qu'il poste, et il y a des trucs qu'il poste pas. Mais des fois, on a des discussions,
et
je me dis « Mais waouh ».
Mais tu vois, lui, il a les stories ouvertes, donc les gens lui répondent comme ça, cash, tu vois. Et sauf qu'en plus, et c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, je me protège dans le sens où moi, je n'alimente pas le truc. Dès que t'alimentes, en fait, dès que tu repostes, dès que tu réponds, dès que machin, les gens savent que t'es touché ou que tu vas répondre entre guillemets, donc ils continuent et donc ils se disent ah vas-y il va peut-être me riposte en story et ils aiment bien. Moi je te réponds absolument hop, je te bloque dans la foulée, c'est-à-dire que même pas j'argumente, genre t'es bloqué instantanément, je peux pas répondre à mes stories, voilà. Donc en fait du coup c'est vrai que ça fiche, je sais pas si les haters entre eux se sont passé le mot, mais ils ont dû se dire avec son regard on peut pas la troller. Elle nous bloque direct, c'est pas rigolo, on va aller voir ailleurs, tu vois. Et donc du coup bah moi j'ai pas trop. Alors sur TikTok j'en ai pas mal parce que TikTok et voilà, mais pareil TikTok tu peux filtrer les commentaires, donc moi j'ai mis filtre, donc ça veut dire que tu mets soit tu filtres tout C'est-à-dire vraiment, tu fais commentaire par commentaire, tu valides. Soit tu mets des mots-clés. Donc moi, j'ai mis plein de mots-clés. Plein de mots-clés impossibles. Donc c'est si t'écris « t'es moche », bah ça va pas se mettre dans les commentaires. Tu vois, voilà, donc voilà, tu te protèges, tu crées des trucs. Moi, je fais ça parce que j'ai pas le temps pour ça, en fait, ça me fatigue. Dès que tu commences à me dire « je sais pas, tout à l'heure, il y a une fille qui m'a dit un truc sur un truc Dyson, là. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. » Mais c'était pas pertinent, tu vois, c'était vraiment juste le commentaire pour faire chier. Pas méchant, mais juste, tu sais, qui pique. Je l'ai restreint. Allez, salut. Genre, c'est-à-dire qu'elle elle est pas bloquée, donc elle se
c'est
dit pas...
C'est le premier warning, c'est le carton jaune.
Non,
c'est
mais elle, elle ne sait pas qu'elle est restreinte. Bah, donc elle se dit, oh, elle a pas mal pris, ça va et tout, elle va continuer de peut-être mettre des commentaires comme ça, mais personne ne les verra sauf elle. Donc,
ouais, c'est
tu
bien
vois,
ça.
Ah, c'est génial, ça, quand même.
Bah oui. Bah oui, non, mais parce que c'est bon, en fait, enfin, genre, pourquoi tu... Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc moi, je fais ça. Et après, voilà, les réseaux, c'est quand même difficile. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Et pas être trop fragile, parce que ça peut être psychologiquement très 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 difficile. On le voit d'ailleurs, il y en a plein qui le vivent très mal, mais je trouve que par contre quand t'arrives à un niveau où vraiment tu le vis très mal, il faut couper, en fait. Genre moi j'espère, et je le demande d'ailleurs souvent à ma famille, à mon entourage, je leur dis, si vous voyez qu'à un moment donné vraiment ça joue sur ma vie, sur ma santé et tout, il faut m'enlever, en fait. C'est pas possible, il faut quitter. Et à la fois, je trouve que les réseaux sociaux, ça peut te donner beaucoup confiance en toi. Ouais, donc
c'est toujours la balance. Hein.
Tu vois, genre quand t'as des gens qui te suivent comme moi, ou des gens, tu vois, qui te mettent des commentaires positifs, qui t'aiment bien, qui t'encouragent et tout, bah ça peut aussi te donner extrêmement confiance en toi. Et sortir des gens qui sont timides, et sortir de leur coquille, et les aider à aller plus loin dans leur art, dans leur truc. Donc c'est, faut trouver un juste milieu, et c'est pour ça qu'en se protégeant, c'est pas mal, par plein de biais.
Ça a été quoi pour toi le chemin, tu sais, tu commençais à en parler au départ en disant ouais, je montrais pas ma tête, j'avais pas forcément confiance, envie, machin. Comment, ça a été quoi le chemin pour qu'aujourd'hui tu t'assumes complètement? Je pense que déjà il y a le fait de grandir, tout simplement.
Ouais, la maturité, mais surtout les gens, en fait, les gens qui t'encouragent, en fait. Ce que je disais juste là, c'est juste qu'en fait, tu sais, les gens... Alors aussi le problème de l'être humain, c'est que tu retiens que le négatif, c'est à dire que tu vas avoir 500 commentaires positifs, t'en as un qui dit t'es moche, et bah t'as la haine, tu dis ah ça y est, je suis moche, tu vois, et c'est horrible de penser comme ça, parce que en fait tu t'en fous de lui, tu vois, voilà. Et puis du coup, moi, en fait, je pense que c'est, oui, c'est avec le temps, genre les gens qui t'encouragent, qui te suivent, tu vois que ça marche, que les gens reproduisent tes outfits, machin. Je sais pas, tu prends confiance en toi, en fait. Tu prends confiance en toi, tu commences à prendre confiance en ton image. Moi, quand j'étais jeune, je dirais pas que j'ai vécu du harcèlement au collège et tout, parce que c'est allé très loin. Mais, moi, on me disait tout le temps que j'étais anorexique, que j'étais maigre, tu vois. Et ça, le truc par rapport à la maigreur, c'est très difficile. C'est un sujet que tu n'as pas le droit d'aborder, parce que c'est dans les standards de beauté d'être mince. Donc, tu as de la chance d'être mince, donc tu ne peux pas te plaindre. Mais avec, sur TikTok, par exemple, mais moi, je me fais... abattre de commentaires comme quoi je suis anorexique, tu vois. Et c'est mon quotidien depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Donc moi, je me suis blindée, je sais très bien comment gérer le truc, mais ça peut être assez violent sur tout ce côté physique, en fait, tu vois. Souvent les gens, ils t'attaquent sur ton physique.
Bah oui, bien sûr, c'est le premier truc qu'ils attaquent, hein.
Oui, c'est la base. Mais du coup, même sur Instagram, t'as les mots clés, les commentaires. Je peux mettre plein de mots interdits. Moi, par exemple, ça, je l'ai mis sur TikTok. Anorexie, mince, maigre, machin. Tout ça, j'ai mis dans les trucs que je peux pas me mettre, parce que ça y est, j'ai entendu, je sais. Genre, ça va, j'ai 30 ans, je sais que je suis mince, tu vois, genre, j'ai compris. Mais oui, il faut... Et au fur et à mesure, Ouais, moi, j'ai appris à aimer mon corps, du coup, tu vois, en voyant, je me suis rendu compte que finalement, pas dégueu, en fait j'ai l'impression que c'est pas mal, j'aurais pu avoir plus de ça, plus moins de ça, mais en fait non, ça va, ça passe, les gens ont l'air de bien aimer, du coup j'aime bien, tu vois. Et au fur et à mesure tu prends confiance, quoi.
Ouais.
Ça peut aussi être l'effet inverse, donc il faut être attentif. Je pense qu'il faut avoir un bon entourage aussi, un entourage qui fait attention pour toi aussi, c'est-à-dire qui check. Et ça va dans tout ça aussi, hein. Oui, genre un entourage aussi qui se dit te calmer quand tu pars un peu en vrille, voilà, tu vois.
Ouais, ouais.
Moi, il y a plein de trucs que je fais vérifier par ma famille, tu vois. Enfin, pas plein maintenant, mais des trucs où j'ai un doute, où genre je me dis, oh, peut-être un peu dénudé, ou peut-être un peu, est-ce que ça fait vulgaire, ou tu sais, je me pose la question. Dès que je me pose la question, j'envoie à mon père.
Mon père, c'est ouf ça.
Et mon père, il est tellement critique. C'est-à-dire, lui, par contre, ça pourrait être le gars qui va sur Instagram et qui dit alors, ça, par contre, ce n'est vraiment pas beau avec telle chaussure. Tu vois, c'est vraiment. C'est le genre qui met des commentaires sur la fourchette après les restaurants.
Mais
tu
très
vois.
Précis, tu sais.
Ah non, très précis.
Genre, la fleur de sel, ça aurait pu être quand même.
Exactement, c'est ce genre de personne. Donc, très drôle, mais pas souvent, pas dans certaines situations, pas très drôle, tu vois. Ouais. Et au resto, je te jure sur ma vie qu'il va mettre des commentaires. Mais il me fait taper des barres. Bref, il est trop drôle. Et du coup, lui, si je lui envoie des trucs, il me dit direct tu vois, non, c'est moche ou oui, c'est ok, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, faut avoir un bon entourage, quoi. C'est bien, ça, c'est pratique.
Ouais, j'imagine. Si on le reprend complètement à l'envers, t'as grandi comment, du coup ? On a un peu skippé cette étape-là, mais là, comme tu parles de ta famille, t'as grandi, du coup, à Paris, avec tes parents, tes frères et sœurs. C'est quoi le modèle ?
J'ai grandi à La Défense, donc, avec mes deux parents et mon frère. J'ai un frère qui a 8 ans de plus que moi.
Ouais.
Il est kiné-ostéo, voilà. Il habite toujours dans le coin, on est toujours tous ensemble. Mes parents sont séparés quand j'avais 15-16 ans,
ouais.
Mais très très bien séparés, ils travaillent toujours ensemble, on part en vacances ensemble, on fait Noël ensemble, enfin voilà, moi je suis très proche de mes parents, donc on a grandi de manière assez normale, enfin rien de spécial. Mon frère et moi, ça on me le demande tout le temps, donc peut-être, voilà, mais mon frère et moi n'a pas le même père, donc on avait ce truc en plus d'avoir une deuxième famille, parce que moi c'était aussi ma famille, du coup, la famille du père de mon frère, je suis très très proche, donc ma mère elle est antillaise et mon père il est français, enfin le blanc, tu peux pas être plus français que lui.
Et voilà. D'où le côté critique, je pense.
Ah oui, d'où le relou, tu sais, le vieux blanc un peu relou, tu vois, genre qui met des critiques sur les restos et tout. Mais drôle, mais aussi extrêmement drôle, donc c'est très pratique. Et ma mère est guadeloupéenne, voilà, donc et ma mère c'est l'opposé, elle a des red, hyper cool, hyper détente.
Ouais, ça crée un bon équilibre.
Ouais, donc c'est drôle. Donc
trop
voilà.
Cool. Bon, c'était complètement à l'envers, on en parle au début, mais c'est intéressant quand même.
Ouais, non, mais du coup, ouais, je suis très proche de ma famille, moi. Très, très proche.
Cool.
Ça, c'est génial, ça.
On va finir cet entretien par nos petites questions gimmick. Tu réponds du tac au tac, si tu peux. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
D'être consistante.
Ouais.
Je suis d'accord.
Très bon conseil. Est-ce que t'as un talent caché ? Je suis sûre que oui.
Oui, plein. Enfin, plein. Plusieurs. je suis super forte au golf. J'ai fait des années de golf. Enfin, j'ai fait des années de golf. C'est genre vraiment... J'adore ça. On adore ça avec mon père, tous les golfeurs de la Terre. Et je fais de la batterie aussi. Je fais très bien de la batterie. Je fais de la batterie pendant 10-15 ans.
T'en pratiques encore ? Pas du tout ?
Non, pas encore. En fait, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait de l'athlétisme à un haut niveau, j'ai fait de la natation à un très haut niveau, danse classique, hip-hop. J'ai dansé pour Reebok quand j'étais petite, dans une compagnie américaine, machin. Je faisais de la batterie, je faisais du golf. Enfin bref, je faisais tout un tas d'air.
Ah ouais.
J'étais nulle à l'école, par contre. Alors oui, je fais beaucoup de sport, mais à l'école, il n'y a plus personne, je t'explique.
Ouais, bon.
Non, j'étais pas nulle, mais ça m'intéressait pas, quoi.
Ok, est-ce que t'as un petit guilty pleasure, du coup ? Qu'on te balancer tout ça.
Attends, juste
un guilty pleasure, quel qu'il soit.
Nourriture ou ce genre de truc.
Ouais, tout ce que tu veux.
Regardez les Marseillais, ça peut tout.
Ah bah
tout,
voilà,
bah
vas-y, redis la question.
Ouais. Ok, est-ce que t'as un petit guilty pleasure ?
Oui, regardez les Marseillais.
Ah, on adore.
Ma passion. Je suis en retard là, de quelques épisodes, là, je suis en folie.
C'est quoi l'émoji que tu utilises le plus ?
Je crois que c'est l'émoji qui lève les yeux au ciel.
Genre sans excédé, long, ça.
La parisienne excédée, quoi, tu vois, genre tout le temps. Et le cœur blanc.
Quand même.
C'est les deux.
Ok, est-ce qu'il y a un compte Insta sur lequel tu te butes, que t'adores ou que t'aimerais promouvoir ici ?
Non. Non.
Pas spécialement.
Non, je suis plein de monde. J'aime à peu près. Tout le monde de la même manière. Il y a pas genre j'ai pas ce
et souvent, t'es la mère qui aime tous ses enfants de la même manière, c'est ça?
Non, mais ça, mais c'est souvent par exemple dans les boîtes à questions là sur Instagram, on me demande souvent genre c'est quoi les inspi et tout, et en fait j'ai pas une personne, tu sais, j'ai pas genre j'ai pas ce truc de pas fan, hein, mais c'est fan, c'est un grand mot, mais j'ai pas une personne qui est une référence, genre vraiment j'aime tout ce qu'elle fait, tout son style. J'aime plein de mondes différents et qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui du coup, tu vois, un coup je vais me dire ah bah aujourd'hui je pourrais partir dans un délire un peu comme ça, comme elle fait, après ah je pourrais partir dans ce délire un peu plus street machin, tu vois, j'ai plein de personnes que j'aime bien. Et du coup j'ai pas un compte qui est ma ref, tu vois, le mien. C'est la grosse, mon compte.
Par contre le compte ref, c'est vraiment le compte du podcast.
le compte du podcast. oui bah il faut le dire,
c'est le petit moment pub. Et enfin dernière question, est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais compris ou un truc qu'on te verra jamais porter?
Des ballerines. Mais voilà.
Ouais, ça c'est un grand classique de toute façon.
Sinon, franchement, je trouve que tu peux vite changer d'avis. Genre là, par exemple, moi, cette année-là, je suis en folie. Je porte soit un jour sur deux des Hugs, le lendemain des Crocs.
Voilà. Ah waouh, t'as vraiment rejoint l'enfer de la mode.
Mais non, je te jure,
attends, elle est de cette team-là. Hein. Attends, ouais. Elle fait la belle, mais elle est de la team de cette team Crocs.
Les Crocs plateforme. Parce que moi, je porte que les Crocs. Attention, Crocs plateforme ou Crocs avec une collab.
Je vois très bien.
Parce que sinon, mais Crocs plateforme. Mais pardon, mais en Fashion Week, je suis en Crocs plateforme. Et tout le monde me dit.
Il y a de ma team aussi, allez.
Moi, je me fais insulter ici. Et là, j'avoue que je me fais sponsoriser à balle par tous les trucs Hugs, là. Les nouvelles formes. Et j'avoue, je suis à ça.
Non, mais les Hugs Reigns, tu les as vus, les Hugs Reigns ? Ils font mi-Crocs, mi-Hugs. Mais une folie. Moi, je les ai en fluo, je les mets tout le temps.
Ah, avec une espèce de petite chaussette.
Elles existent. On va faire sponsoriser cet épisode par.
Elles existent en noir. Hein,
là, attends.
Vraiment, envoyez-nous de l'argent.
Mais je te jure, moi, au bureau, on a nos chaussons Crocs.
Tu vois, c'est bien ça.
Bah, merci pour tout, Alex. C'était vraiment super cool.
Très contente d'avoir reçu.
Avec plaisir, j'ai beaucoup parlé. Bon courage.
Bah, c'était le but. C'était merci.
À plus.